Merci donc de venir à ce séminaire qui est une expérience, puisque nous avons choisi de réfléchir plus largement que un petit groupe de recherche que nous sommes, les 5 chercheurs ici qui vont se présenter après moi. Sur la question de l'utilisation de certaines nouvelles, appelées comme telles, nouvelles technologies, en utilisant un cadre particulier qui est celui de la littérature dystopique. J'imagine que si vous êtes ici aujourd'hui, c'est que déjà vous avez lu, vous avez réfléchi, et c'est cette richesse-là que nous aimerions pouvoir partager avec vous. Nous-mêmes ayant travaillé sur un certain nombre de questions, soit technologiques, soit liées à la littérature. Alors, mon nom est Jean-Daniel Reynorn, je suis professeur de santé publique à l'Université de Genève, à l'Institut du développement. J'ai ici, à la Maison des sciences de l'homme, à Paris, la chaire qui s'appelle « Inégalité sociale et santé ». En d'autres termes, l'impact des nouvelles technologies biomédicales sur les inégalités de santé, ou comment finalement les technologies biomédicales modernes renforcent des inégalités de santé qui sont déjà très impressionnantes. Alors, l'objectif de ce qui nous réunit aujourd'hui, en tout cas c'est cela notre projet, c'est de s'interroger ensemble à travers l'apport, le progrès que représentent certaines de ces nouvelles technologies, de s'interroger sur dans quelle société nous allons vivre demain, dans quelle société nous pouvons souhaiter vivre demain, ou dans quelle société nous pouvons craindre de vivre demain. Et donc on va éclairer cela de deux champs. Le premier étant la société de l'information, l'économie numérique, dont Imma Tubella est une spécialiste. Et le deuxième étant la question de l'utilisation de certaines biotechnologies, c'est-à-dire le sujet sur lequel je travaille depuis quelques années. On part d'un constat, ou de plusieurs constats. La première, c'est que l'évolution de ces technologies est inéluctable. L'idée même qu'on puisse arrêter le développement de ces technologies est une idée qu'on n'intègre pas dans notre réflexion. Elles sont là, elles se développent de manière exponentielle. Donc, il faut regarder comment on peut les appréhender et quelles type d'impact elles peuvent avoir sur notre vie. Justement, parce qu'elles ont envahi notre vie quotidienne. Nous avons tous, bien sûr, des smartphones. Nous avons tous recours de plus en plus à de l'imagerie médicale. Aujourd'hui, un jeune médecin ne sait plus écouter un cœur ou palper un foie. Il prescrit une IRM, et l'IRM est le regard du dedans du corps humain. On ne sait plus faire de la clinique, on fait de la technologie. Le troisième constat, c'est que ces nouvelles technologies modifient notre manière de vivre ensemble. Elles le modifient Facebook, elles le modifient dans la manière dont on appréhende, on se représente la maladie. On devient savant, c'est-à-dire qu'on a accès à toute une information qu'on ne possédait pas avant. Je me souviens, il y a fort longtemps, on disait la relation entre les soignants et les soignés, c'était la relation entre ceux qui savaient et ceux qui ne savaient pas. Aujourd'hui, bien souvent, les patients auxquels les professionnels de santé ont affaire ont beaucoup plus lu, arrive même avec des dossiers, tenez docteur, lisez d'abord ça avant de regarder mon cas, parce que y a certainement tous les éléments dont vous avez besoin dans ce dossier. Donc, ces nouvelles technologies ont un impact probablement beaucoup plus important, même qu'on veut bien encore se l'avouer, sur notre relation aux autres. Ils modifient le regard que l'on porte aussi sur les autres. On aura l'occasion d'y revenir. Bien sûr, l'utilisation de toutes ces nouvelles technologies pose des questions éthiques importantes. Ça fait partie aussi de la liste des grandes questions que l'on va se poser, et surtout parce que une tendance parfaitement observable à la fois dans le monde numérique comme dans le monde de la biomédecine, c'est ce processus de déshumanisation qui est à l'œuvre, le fait que l'humain est de plus en plus un objet où son langage est de plus en plus stéréotypé, on nous fait rentrer dans des cadres, et donc l'individu, avec toute sa richesse et sa personnalité, se retrouve en tension avec, parfois et même souvent, avec l'utilisation de certaines de ces technologies. Mais, bien sûr, elles ont aussi un intérêt, parce que si elles n'avaient pas d'intérêt, la question ne se poserait même pas. Elles ont même tellement d'intérêt qu'elles sont capables de déclencher du plaisir, voire de l'addiction, et qu'elles représentent même objectivement, dans un certain nombre de cas, et là je parle plutôt pour moi sur les technologies biomédicales, un progrès au sens où elles permettent de sauver des vies, elles permettent de lutter contre la douleur, d'améliorer les capacités diagnostiques, d'améliorer le suivi des patients, etc., etc. Donc, s'interroger sur le type de société dans laquelle on veut vivre, c'est essayer de comprendre comment on va pouvoir continuer à vivre, mais bien sûr autrement, en vivant avec des objets, des manières d'être, des outils qui sont nouveaux. C'est vrai que quand le téléphone est apparu, le train, l'électricité, une bonne partie de ces problèmes devaient aussi se poser, peut-être dans une salle comme celle-là. Mais clairement, on est à un moment de l'histoire de l'humanité dans lequel l'irruption brutale de ces technologies en 20 à 30 ans modifie notre manière de vivre. Et la question que nous nous posons, et c'est celle-là, entre autres, que on va chercher à débattre avec vous, c'est est-ce que l'utilisation parfois sans contrôle de ces nouvelles technologies n'ouvre pas une porte sur une organisation sociale beaucoup plus totalitaire, beaucoup plus contraignante? Est-ce qu'il n'y a pas une question qui se pose entre la jouissance l'apparente plus grande liberté qu'offrent ces nouvelles technologogies, les progrès qu'elles offrent et les contraintes qui en sont la conséquence, en particulier en termes de liberté individuelle, de liberté de comportement. On est dans un monde, et c'est la raison, bien sûr, vous l'avez bien compris, et merci de l'annulation de notre première séance 4 jours après les événements du vendredi 13 novembre, ici à Paris. Il est vrai que de se poser cette question avant était une manière un peu soft de réfléchir à une question pour un avenir proche. On travaille ensemble plutôt sur un monde dans 20 ans. On n'est pas dans la science-fiction. Le monde dans 20 ans, il sera en partie comme il est aujourd'hui, avec d'autres manières d'être. Et ce sont ces manières d'être que l'on souhaite interroger. Il y a effectivement dans les événements du monde aujourd'hui des manières beaucoup plus rapides d'arriver à des régimes totalitaires, privatifs de liberté, privatifs de l'espace individuel, et que c'est une limite de notre projet. On ne va pas rentrer sur ces terrains-là. On va rester dans une observation et une discussion autour de la question de est-ce que ces nouvelles technologies vont aller plutôt dans le sens de nous contraindre, de nous faire rentrer dans des cadres plus contraignants et donc de nous priver d'une partie de notre liberté, ou au contraire, est-ce que dans un équilibre, elles vont à la fois nous permettre d'améliorer notre sort, d'améliorer notre vie, même si c'est au prix d'un certain nombre de changements. Donc c'est un exercice un petit peu difficile parce que ne pas rentrer sur le terrain politique, sur le terrain des affaires internationales, n'est pas évident, surtout que les phénomènes dont on parle sont des phénomènes globalisés. On ne parle pas de la société française, en particulier, puisque tous les deux, on ne vit pas en France. Donc on a un regard proche de la frontière, certes, de la Catalogne ou de la Suisse, mais finalement, c'est la même chose partout. Donc les réalités politiques qui sont propres à chacune des sociétés sont traversées par les mêmes questions. Et c'est de ces questions-là que nous aimerions parler dans ce séminaire. Alors, on doit poser le problème. Donc, pourquoi un tel séminaire ? En fait, c'est une histoire assez banale dans le monde de la recherche où on s'est retrouvés, Imma Tubella et moi-même, dans le même bureau, à la Maison des sciences de l'homme. On ne s'était jamais rencontrés. Elle travaille, sa chaire s'appelle « Nouvelles technologies et éducation », la mienne, comme je vous ai dit, « Inégalités sociales et santé ». A priori, personne sympathique, on partage un bureau, et puis on a commencé à parler, chacun de notre point de vue. Parler ?
Discuter.
Discuter. Bon, en catalan, parler, c'est discuter. Bon, discuter.
Débattre.
Et puis, on s'est aperçu que dans nos mondes apparemment très différents, on tirait des fils qui soulevaient les mêmes questions. Et puis, quand on a commencé à parler, débattre, discuter de la médecine connectée, on s'est aperçu qu'on parlait de la même chose. Alors, de cette préoccupation commune, on a aussi fait des différences. C'est-à-dire que, on va dire que on aurait pu appeler notre séminaire « Les nouvelles technologies entre optimisme et pessimisme ». Je joue dans ce débat le rôle du pessimiste. Imma Tubella joue plutôt le rôle de l'optimiste raisonnable. Et puis on a rencontré alors une autre génération de chercheurs. Alors nous, on a déjà avancé. Oui, ça va comme terme, avancé, en âge en tout cas. Et puis eux, ils sont d'une génération qui est celle de nos enfants finalement. Et en les rencontrant, on s'est aperçu qu'à la fois on parlait le même langage, mais pas du tout le même langage. Ne serait-ce qu'ils utilisent un vocabulaire que nous, on ne comprend pas. Et moi en particulier, ce qui est le comble, puisque j'ai appris en faisant de la médecine, si les 6000 mots qui sont en moyenne le jargon médical, et qu'eux ne comprennent pas mon jargon. Mais jusqu'alors, je pouvais comprendre le leur, et aujourd'hui, je ne le comprends plus. Alors de cette rencontre est née aussi d'autres préoccupations, d'autres manières de penser, d'autres méthodes pour réfléchir. Et on va essayer dans ce séminaire aussi d'utiliser ces autres méthodes de réflexion. Nous, on est vieux jeu, c'est-à-dire on va discuter. Mais eux, ils vont proposer d'autres méthodes de réflexion utilisant des outils d'aujourd'hui. Il faudrait qu'on arrive à en sortir un produit, ça va dépendre à la fois de votre énergie et de la nôtre, qui puisse voilà, servir de référence, c'est un bien grand mot, mais d'outils en tout cas pour contribuer à un débat qui, alors, vu du point de vue de la recherche, traverse toutes les disciplines. Tout le monde se pose cette question, quelle que soit la discipline dans laquelle il travaille. Peut-être que les économistes foncent plus en réfléchissant moins, encore que. Mais incontestablement, la question de n'est-on pas en train de se faire dépasser par la technologie que nous avons nous-mêmes créée, est-ce qu'elle n'est pas en train de nous échouer, de nous filer entre les doigts, et finalement, est-ce que les chercheurs, les producteurs de cette science et de ces technologies, quand ils la regardent, est-ce que finalement, ils en sont encore, ils sont encore dans la capacité de les contrôler, de dialoguer avec les résultats de leurs recherches, ou bien est-ce qu'on n'est pas, et là on fait appel à un ouvrage qui n'est pas de la littérature dystopique, mais qui va prendre, je vais vous le dire en deux mots, une grande, va avoir une grande audience l'année prochaine, qui est le livre de cette jeune écrivaine de 18 ans anglaise, Mary Shelley, qui s'appelle Frankenstein ou le Prométhée moderne, qui, Frankenstein, je vous rappelle, n'est pas le monstre, mais Victor Frankenstein, le savant, et qui, dans son dialogue avec sa créature, est obligé de faire des choix, puisque sa créature le dépasse, et il ne la contrôle plus, et la question que pose la créature l'oblige à faire des choix où sacrifier sa propre famille, qui va finalement être tuée par la créature, ou introduire dans l'humanité un virus, sa créature, en lui faisant une femme, et donc des enfants, etc. etc. Donc, il y a deux siècles, Mary Shelley pose une question qui est très proche de celle qu'on se pose aujourd'hui. Alors, on n'est pas parti de là, on est parti, en fait, dans notre discussion de deux romans que vous avez, j'imagine, tous lus, que sont 1984 de George Orwell et Le meilleur des mondes de Huxley. Et en échangeant, en ouvrant les livres, en les relisant, on s'est aperçu qu'il y en avait aussi d'autres. Et donc, on a lu ensemble une dizaine de livres de la littérature dystopique. Alors, qu'est-ce qu'on entend par littérature dystopique? Ce n'est pas de la science-fiction, la littérature dystopique. C'est ces romans d'anticipation sociale qui parlent d'un monde qui est le nôtre, mais dans quelques années. C'est-à-dire que dans tous ces ouvrages, il y a des tas de choses qui ressemblent à ce qu'on vit aujourd'hui. On n'est pas sur la planète des singes. On est ici, souvent dans des villes qui portent le nom qu'elles portent aujourd'hui, avec des rues, avec des gens, avec des monuments, avec des manières de vivre qu'on connaît très bien. Et c'est en ça que la littérature dystopique nous a paru une porte d'entrée intéressante, parce que la société dystopique décrite dans ces ouvrages, c'est en fait l'installation de régimes totalitaires doux au sens de l'installation. Ce n'est pas la brutalité de ce qu'on a connu au cours du XXe siècle. C'est peu à peu, on perd de la liberté jusqu'à ne plus en avoir grâce à la science et grâce à l'utilisation de certaines technologies. Et vous allez voir que c'est fascinant de voir que ces intuitions d'un certain nombre d'auteurs du XXe siècle nous renvoient complètement au questionnement d'aujourd'hui. Alors, pour terminer, à partir de ce cadre, la littérature dystopique, on va chercher à explorer entre utopie et dystopie en quoi certaines nouvelles technologies vont plutôt dans le sens de la dystopie ou non, et aussi, est-ce qu'on ne voit pas apparaître en miroir des formes de résistance des Edgar Snowden ou WikiLeaks, c'est-à-dire que le système sécrète lui-même ses propres limites. Et donc, entre l'hégémonie Google et Edgar Snowden, est-ce que ces deux images ne sont pas comme une introduction dans ce qui sera aussi le monde de demain ? C'est-à-dire, on ne va pas faire un séminaire de lamentation. Ah, qu'est-ce que le monde d'avant était bon ? On va faire un séminaire tourné vers l'avenir en essayant de regarder de la manière la plus réaliste possible à quoi ça va ressembler dans 20 ans, quand, à la vitesse où se développe, Imatu Bella en parlera tout à l'heure, comment on appelle ça, la quantité d'informations qui s'échange, elle est exponentielle. Donc, dans 20 ans, tout sera connecté. Quel impact ça va avoir sur notre vie et quel verrou, quelle forme d'équilibre on peut imaginer, voir s'installer pour ne pas être entièrement sous la coupe de ces nouvelles technologies. Alors, comment on va travailler ? On va travailler aujourd'hui, c'est une forme d'introduction, c'est une mise en commun de connaissances, c'est vous faire part de, dans un premier temps, de comment on voit les choses et sur quoi on a envie d'insister, mais aussi de vous entendre, compléter, refuser, ajouter. Et donc, dans cette première partie, jusqu'à pendant l'heure et quart qui reste, successivement, chacun d'entre nous va dire comment et sur donc quel type de contenu il souhaite mettre dans ce débat.